grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. RadioCapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et au Capi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. RadioCapi.net, la radio en différé à votre service.
Des pluies qui s'abattent sur la ville de Kinshasa également dans certaines provinces créent beaucoup de dégâts. À Kinshasa, par exemple, plusieurs routes se sont dégradées. C'est le cas de l'avenue Bypass au niveau de Mongafula pour ne citer que cette route-là. Mais il y a beaucoup d'autres routes à travers la ville qui posent énormément de problèmes. On signale également des inondations dans plusieurs quartiers lorsqu'il pleut. Alors, quels sont les travaux qui doivent effectuer? Quelles sont les dispositions prises pour prévenir à des dégâts généralement causés lorsqu'il y a des fortes pluies qui s'abattent sur le pays? Je le disais en sommaire, nous avons avec nous dans ces studios Chamida Ilunga, qui est directeur général de l'Agence congolaise de grands travaux. Nous rappelons le numéro des contacts si vous êtes intéressé par ce sujet. Vous avez des témoignages à nous faire par rapport au coin où vous habitez. Nous rappelons le numéro des contacts, c'est les 081 890 63 94. Vous pouvez aussi réagir sur la page Facebook au Capi Service. Voilà, Chamida Midari Lunga, les pluies, souvent les gens redoutent hein, lorsque les pluies reviennent. Et il y a souvent des dégâts quand il s'agit de pluies diluviennes. Alors, on aimerait d'abord savoir, est-ce qu'au niveau il y a des dispositions qui sont prises hein, parce qu'on sait déjà bien avant, il y a certaines routes à travers les pays, même certaines artères à travers certaines villes de pays qui étaient déjà pas dans des très bons états. Alors on imagine bien avec la pluie, hein, il y a des dégâts à redouter. Est-ce qu'il y a des dispositions qui ont été prises par rapport à tout cela?
Merci Marcel pour la question. Je crois qu'aujourd'hui, il est important que nous puissions rappeler ce que notre façon d'occuper les territoires a naturellement des impacts considérables, oui, des impacts significatifs, n'est-ce pas, sur notre environnement. Vous savez que de plus en plus, l'urbanisation est devenue un facteur assez compliqué et aggravé généralement par une occupation le plus souvent anarchique. Et je crois qu'aujourd'hui, ceux qui sont, tout le monde sait, qu'on a dérangé complètement, n'est-ce pas, l'environnement naturel. Vous savez, lorsque tout se passe, lorsqu'on construit normalement, en respectant les normes, lorsqu'on n'attaque pas sérieusement l'environnement naturel, je crois que les dégâts sont généralement à éviter. Mais lorsque on attaque par une urbanisation très dangereuse, par une occupation très dangereuse, et ça, soyez assurés que la seule façon de faire, c'est il faut chercher à trouver des solutions. La gestion durable des eaux, la gestion durable des ruissellements passe par d'abord un aménagement judicieux, une occupation judicieuse de terrain, de sol. Donc je crois que la question qui se pose aujourd'hui, c'est d'abord la grande question, l'occupation anarchique. Vous avez cité le cas déjà de l'avenue Bypass.
Oui.
Vous savez, aujourd'hui, on est comme surpris, alors que en réalité, on sait ce qui se passe. Aujourd'hui, lorsque vous allez sur la route de l'université, en empruntant, n'est-ce pas, le triangle, vous montez par Saint-Pépé, vous êtes surpris de constater une occupation anarchique sur le flanc droit. Donc, vous constatez que, à part l'ISTEM qui a pu occuper un terrain, mais tout l'espace est occupé. Donc, on a changé complètement la densité d'occupation. Aujourd'hui, on a imperméabilisé le sol. Vous le savez, un sol naturel doit absolument chercher à faire d'abord des infiltrations. Normalement, quand un sol est naturel, plus ou moins 70 à 100% des eaux s'infiltrent. Et une partie s'infiltre profondément de manière à ce que l'équilibre naturel, l'équilibre hydrologique soit maintenu. Mais alors, ce qui arrive, c'est qu'il y a des infiltrations très faibles et maintenant, ce sont les eaux qui ruissellent. Beaucoup d'eau ont ruisselé sur le flanc droit et sont allées dans la vallée et ont augmenté les débits des eaux qui devaient normalement traverser, n'est-ce pas, la buse qui est aménagée. Ce qui arrive, ce sont des débordements. Et vous voyez des inondations enregistrés ici et là. C'est le même phénomène qui arrive ici où on décrit les érosions. Hier, vous avez vu, n'est-ce pas, on a présenté pratiquement un décor ahurissant ici et là, avenue Escorte. On a présenté au niveau de l'Unikin, il y a une érosion. C'est le fait de l'urbanisation. C'est le fait d'avoir imperméabilisé le sol de la manière la plus anarchique. Ce qui arrive, ce sont donc les inondations, ce sont des érosions.
Bon, le constat est celui-là, c'est vrai qu'il est bien amer, mais maintenant, et qu'est-ce qu'il faut? Parce qu'il faut faire face à cette situation. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant?
Oui, ce qu'il faut faire, d'abord, vous savez aussi il y a d'abord une planification globale qu'il faut envisager. C'est-à-dire, d'abord, il y a l'occupation qui doit se faire de manière organisée, de manière, n'est-ce pas, réglementée. Il faut que on ne puisse pas bâtir sans autorisation de bâtir. On ne bâtit pas dans les zones dangereuses. On ne bâtit pas, par exemple, vous savez, il y a toujours, quand on conçoit un plan d'aménagement, de la parcelle à l'ensemble du versant, du bassin versant, il y a toujours une coordination. C'est-à-dire, les eaux doivent s'écouler d'une parcelle, doivent être drainées dans le bassin versant jusque vers l'exutoire. Là, vous allez maîtriser tous les risques qu'il y a. Donc, il y a un problème de réglementation, le respect de la réglementation. Ça, c'est ce qu'il faut inscrire en amont. Il faut une bonne politique d'aménagement qui tient compte du relief naturel, parce que on doit tout faire. Et aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est quoi? C'est d'abord de veiller à ce que lorsqu'on doit construire une route, par exemple, que nous puissions construire et doter la route de tout ce qu'il faut comme moyen d'assainissement. Ça, c'est une grande précaution que nous faisons. Et il faut aujourd'hui, n'est-ce pas, construire des bassins de rétention. Et là aussi, vous le savez, qu'il y a des occupations dans les bassins de rétention.
Oui.
Et ça perturbe tous les systèmes d'assainissement, tous les systèmes qui sont mis en place. Et ça, on a assisté à beaucoup de cas d'érosion. Donc nous devons arriver à rétablir le fonctionnement normal par une bonne réglementation, en même temps que, en rentabilisant les investissements publics aujourd'hui, quand nous construisons, nous tenons compte du fait qu'il faut drainer le plus d'eau jusqu'à l'exutoire.
Alors, maintenant, puisque vous avez parlé, ça c'est des solutions envisagées, c'est-à-dire il faut une politique d'aménagement, il faut le respect de la réglementation, une planification globale, mais du moment qu'on n'en est pas encore là, si ceux qui habitent, prenons le cap de l'avenue à Bypass que j'ai cité, si maintenant les gens se posent la question de savoir, bon, qu'est-ce qui va être fait, parce que la situation est déjà là, qu'est-ce qu'il va faudra détruire toutes ces maisons construites là où il fallait pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait une solution durable?
Naturellement, dans la gestion durable des eaux de pluie, vous savez qu'aujourd'hui c'est une théorie qui est en vogue, la gestion durable des eaux de pluie, on veut gérer de manière durable, il faut libérer l'emprise. Il faut que les investissements qui commencent, les investissements qui naissent comme maintenant. Je vous donne par exemple le cas de l'avenue Bypass.
Oui.
Je crois que je vous ai dit que dans 2 semaines, 3 semaines, nous reprenons les travaux de réhabilitation. Déjà, à travers ces travaux de réhabilitation, par exemple, au niveau du pont Kalamu, nous avons prévu de construire un grand dallo. Un dallo qui va permettre, n'est-ce pas, cette fois-ci, de tenir compte de tous les débits qui viennent, qui n'étaient pas, n'est-ce pas, qu'on n'avait pas intégrés avant. Parce qu'aujourd'hui, c'est le fait du débordement. Les eaux ont débordé et vont au-delà de l'avenue. Et ça précipite même la dégradation des ouvrages. Donc nous sommes en train de réhabiliter et de reprofiler les niveaux de la chaussée de manière à ce qu'il n'y ait pas de problème. Vous savez, c'est ce que nous avons fait par exemple sur le boulevard Lumumba, au niveau des dallos Okapi, au niveau de plusieurs dallos. Vous savez qu'il y avait à l'époque cette situation.
Il y avait tout le temps l'eau qui débordait. C'était compliqué de passer par là. Oui.
Exactement. Vous voyez qu'aujourd'hui, ce phénomène a totalement été maîtrisé. Donc c'est ça que nous faisons partout où nous intervenons. Nous voulons cette fois-là tenir compte des difficultés générées par l'occupation anarchique et nous construisons de manière à drainer. Malheureusement, ce qui arrive aussi, et là, ça appelle, n'est-ce pas, la stratégie principale, c'est la sensibilisation.
Oui.
Vous savez, aujourd'hui, On fait des efforts d'assainissement. Vous avez vu beaucoup de caniveaux découverts pour faire les curages. Et je crois qu'il y a aussi cette politique à vouloir curer les différents cours d'eau. Mais la production des déchets est en train de gêner. C'est un obstacle sérieux dans cet aménagement. Donc ce sont là encore des difficultés. Alors vous voyez que l'occupation, lorsqu'on ne libère pas l'emprise, on est tenté de compliquer l'assainissement. On est tenté d'envoyer les déchets dans les caniveaux et ce qui s'ensuit est toujours très souvent très grave. L'eau, c'est un ennemi extraordinaire.
Voilà, dégâts causés par des pluies. On fait un état des lieux avec notre invité Charles Medailunga, directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux et puis des solutions envisagées. Donc si vous êtes intéressé par ces sujets, je vous rappelle le numéro des contacts, c'est les 081-890-63-94. Nous avons déjà en ligne Ismaël Albombashi et Coco qui est à Kikwit.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent RadioCapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiocapi.net.
Ismaël nous appelle de Lubumbashi. Bonjour Ismaël.
Bonjour Marcel Ngomombala Keba. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
On vous écoute.
Ok, ma première préoccupation c'est de savoir où je demande à l'invité quand il dit que les gens habitent ou construisent en achèvement. Maintenant la faute incombe à qui ? À la société plutôt, au service du cadastre et urbanisme habitat ou à la population ? J'avais voulu maintenant lui montrer un peu une situation qui dépasse du côté Bel Air sur l'avenue Savonieux. Ma question qui dit, juste quand il pleut, il a fallu assez que les gens ou la population soient prêts pourvu qu'ils puissent prévenir aussi les dangers. Juste quand la Chemaf envoie le réserve d'eau de son usine, c'est très difficile et très compliqué. Maintenant, ma question est celle-ci. Quelle grandeur ou à quelle dimension un caniveau peut prendre pourvu qu'on ne puisse pas avoir des dégâts, soit de l'inondation? Et l'état au sud de la route, par exemple, je vois une route qu'on est en train de construire par les Chinois. Le caniveau est à 2 cm, 3 cm, disons une brique seulement.
3 cm,
oui. Quand ils n'avaient pas construit cette route, c'était grec qui construit cette route qui est circulaire ou des cimetières. Juste quand ils n'avaient pas construit cette route, ils n'avaient pas de problème d'inondation. Mais juste quand on a voulu rétablir cette route, on est vraiment dans le dégât. Maintenant, comme vizir et comme lieu expert, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ou quels sont quelques mécanismes de l'amélioration qu'ils peuvent faire pourvu qu'on ne puisse pas encore avoir des gars, soit inondation due à la pluie causée par la route.
Voilà. Merci Ismaël. On a compris votre question. Merci d'avoir appelé de Lubumbashi à Kikwit. Coco est en ligne. Bonjour Coco.
Bonjour. Comment ?
On vous écoute Coco. Quelle est votre question ? Ça va ? Votre question ?
Bon. Vous avez dit de lutter contre les inondations. C'est nous ici, ce sont des chefs de terre qui utilisent les parcelles.
Bah, allez-y. Les chefs
ce sont les chefs de terre qui utilisent les parcelles. Comment lutter contre
vous voulez parler des chefs coutumiers, on a compris. Donc, c'est que vous voulez dire par là que ça s'est fait pas aussi, hein, comme il se doit. Merci, Coco, d'avoir appelé de Kikwit. Charles Médard, on revient à vous. Vous avez suivi d'abord Ismaël qui a posé la question. C'est vrai, vous avez parlé et qu'il faut réglementer le respect de la réglementation, notamment pour ce qui est de l'occupation de terrain. Alors, Ismaël a cherché à savoir alors à qui la faute. C'est aux autorités compétentes par rapport à la distribution de terres ou à alors aux personnes qui occupent ces terres. Il a également posé la question par rapport, il a parlé du cas de la route à Bel Air, sur l'avenue Savonier, à Albombashi, où il parle de caniveaux. Il demande, vous comme expert, les caniveaux doivent avoir quelle dimension pour permettre à ce que les eaux puissent comment on puisse, les eaux puissent, comment dire, ruisseler, je sais pas si ce terme est utilisé. Ruisseler sans problème. Mm-hmm. Quelle dimension? Parce que l'a dit, les Chinois sont en train de construire une route. Avant, il n'y avait pas ces problèmes d'inondation. Mais voilà qu'ils sont en train de construire une route avec des caniveaux. Mais là, maintenant, ils ont comme l'impression que c'est pire qu'avant.
Ok. Ok, en fait, je dois dire simplement ceci à Ismaël, c'est que avant de construire une route, il y a toujours une étude hydraulique et une étude hydrologique. C'est-à-dire, il faut savoir déterminer quelle est la quantité d'eau susceptible d'être recueillie, d'être évacuée. Quelle est la quantité d'eau qui ruisselle. Ça, c'est l'étude qui commence en amont. Et je crois qu'aujourd'hui, la ville de Lubumbashi dans l'ensemble mérite qu'il y ait beaucoup des travaux d'assainissement. L'Agence congolaise des grands travaux a eu, il y a 5 mois, à faire une étude hydraulique, de manière à pouvoir aider les réseaux de routes de Lubumbashi, n'est-ce pas, à pouvoir évacuer convenablement les routes. Il y a des travaux qui sont envisagés, hein, dans les cadres, n'est-ce pas, il y a beaucoup de mesures qui sont prises dans ce sens pour qu'on puisse assainir correctement. Alors, s'agissant des dispositions qu'on prend, à partir du moment où on fixe maintenant la quantité d'eau, si elle doit être évacuée, c'est à ce moment-là qu'on choisit, on fait les dimensionnements des caniveaux. Donc, les caniveaux sont dimensionnés de manière à répondre au débit transité, de manière à répondre au flot d'eau que ça peut recevoir. Vous dimensionnez plus, vous risquez de pêcher s'il y a moins d'eau. C'est comme ça qu'il y a des dépôts qui arrivent, on arrive à boucher, parce que il faut bien dimensionner de manière optimale, de manière à ce que les caniveaux fonctionnent convenablement. Donc il faut absolument tenir compte de la quantité d'eau. C'est une étude qui se fait toujours en amont. Donc avant de construire une route, il l'a dit, la route elle-même vient créer l'imperméabilisation du sol.
Oui.
Donc la route est aussi un facteur d'urbanisation qui vient absolument imperméable de sol, et donc qui vient créer et faire ruisseler les eaux. Mais la route, généralement, et la cité Crexet, une des entreprises parmi les plus professionnelles, qui travaille très bien, et donc logiquement, Crexet ne peut pas ignorer l'importance des caniveaux, ne peut pas ignorer l'importance du drainage des eaux. Vous savez qu'une route ne tient pas quand on n'a pas tenu compte de l'évacuation des eaux. D'ailleurs, la plupart des investissements qu'on fait en matière de route, n'est-ce pas, on regrette que ça se dégrade de manière précoce suite au fait que l'assainissement n'a pas été conséquent. Donc ça, c'est ce qu'il faut plutôt dire. Mais alors, à qui la faute? Mais la faute, c'est justement aux uns et aux autres. Ceux qui délivrent parce que ils sont poussés par le profit, et il faut les condamner, il faut les dénoncer, parce qu'il y a des périmètres interdits. Je vous ai dit ici, lorsqu'on doit dimensionner les caniveaux, il y a ce qu'on appelle le bassin versant. Donc c'est l'ensemble du relief qui envoie de l'eau, quelque part on identifie l'exutoire vers laquelle on doit envoyer de l'eau. Donc il faut à tout moment, avant de dimensionner un caniveau, de savoir, le caniveau va envoyer les eaux vers quelle sortie. C'est ça qu'on appelle l'exutoire. Donc s'il n'y a pas de sortie, ça ne sert à rien, parce que là vous compliquez la circulation de l'eau. Donc, c'est le cas à Lubumbashi. On a identifié plusieurs exutoires. On a fait une étude topographique. On connaît désormais vers quels exutoires on doit envoyer de l'eau pour éviter les inondations. Voilà. Mais il est un fait. Il y a des endroits dangereux, interdits de construction. Donc, ceux qui délivrent des autorisations de bâtir sur ce genre de sites sont à accuser, ils sont condamnables. Mais de même aussi, il faut informer la population.
Oui.
Il n'est pas normal, on le voit partout. Ils sont nombreux, ceux qui construisent sur des flancs instables. Vous savez que quand il y a des glissements de terre, généralement, la pluie peut provoquer un glissement de terre. Et ce sont des flancs instables. Quand vous allez sur la route Matadi ici, vous allez voir, c'est plein de sites vulnérables. Donc, des gens construisent sur des talus, ils construisent sur un relief montagneux, sur une colline, eh bien tout ça, c'est des choses qu'il faut les faire avec précaution, parce que on ne peut pas s'amuser à bâtir sur un terrain instable et se dire qu'on est en sécurité. Vous avez parlé de bypass à Mongafula. Lorsque vous visitez Mongafula, vous allez voir que Mongafula souffre d'un drainage. Mongafula souffre même aussi, n'est-ce pas, des routes qui n'ont pas été bien aménagées, qui n'ont pas suivi, n'est-ce pas, la direction qu'il faut, recommandable. Donc ce sont toutes ces questions qu'il faut regarder et dont nous tenons compte.
Oui.
Quand nous faisons les investissements, nous tenons compte de toutes ces questions dans les études. Donc aujourd'hui, il n'est pas question de commencer un travail de route sans qu'il y ait eu au préalable une étude en amont. Donc il faut absolument passer par là et je crois ce qu'il faut dire. Alors, c'est ce qu'il faut aussi dire à Coco à qui quitte.
Qui a parlé du chef coutumier.
Chef coutumier, je pense, il faut informer, il faut former les différents chefs coutumiers, tous ceux qui ont, n'est-ce pas, une parcelle d'autorité, et quelque part, il faut les former.
Voilà, on a deux autres auditeurs en ligne, Augustin qui nous appelle de Kindu et Joe qui est à Kinshasa. Augustin, vous êtes à Kindu. Bonjour Augustin.
Bonjour la radio Capi. Nous avons assisté à un cas par exemple qui s'est passé dans la ville de Kindu.
Oui.
Avec les dernières pluies qui se sont abattues, plus de 2500 ménages ont déménagé leur lieu. Ma question que je vais poser maintenant, je pose la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour arranger les caniveaux. Car on est en train de voir dans les caniveaux, il y a par exemple, on jette les déchets en désordre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et la deuxième question, quel genre de maison pour qu'il faut construire dans ces endroits marécagés-là? Je vous remercie.
Merci. Augustin, d'avoir appelé de Kindu. Joe, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Joe.
Oui, bonjour, Radio Capi. Bonjour à l'invité. Oui, pour notre cas, ici, à Kimbanseke, qui est à Kinshasa, vers la commune, sur le boulevard, la commune de Kimbanseke, qui est, le caniveau sont totalement bouchés. Et quand vous observez de près, vous voyez, il y a du sable qui monte déjà jusqu'au niveau du macadam. Alors, j'allais demander à notre invité, et ils sont l'agence congolaise de grands travaux, mais après combien de temps on doit normalement curer ou faire l'assainissement des caniveaux quand on vient de construire des caniveaux? Et puis, quand vous êtes vers l'université Kimbanguiste, vers la commune de... Je ne sais pas encore la commune, mais ici à Kinshasa, là à côté, là, la rivière là, vous voyez, il y a trop de saletés qui montent même sur le boulevard et quelqu'un peut facilement traverser sur ces saletés-là parce que c'est vraiment débordé. Alors, est-ce que, comme vous parlez aussi de l'état des lieux,
oui,
il peut aussi, après l'émission, aller faire l'état des lieux de ces endroits-là dont je venais de citer? Parce que l'agence congolaise de grands travaux, je ne sais pas si elle est là seulement pour construire des routes, faire des grands travaux, mais qu'en est-il de l'assainissement? Et l'assainissement là intervient après combien de temps? Après combien de temps? Parce que on en a marre avec tout ce qui se passe, surtout ici dans la ville de Kinshasa.
Merci Joe. À Kimbanseke, que vous avez parlé de quelle avenue?
Et sur la route Lumumba, la grande, le boulevard Lumumba, quand vous êtes à la commune et vous avancez, vous faites comme si vous allez vers quartier 1. C'était seulement un coup d'œil dans le caniveau. Et puis il nous a parlé de la grandeur des caniveaux. Mais il fallait voir comment est-ce que ces caniveaux-là, bon, je ne sais pas parce que ça a été conçu par les Chinois, et c'est bouché. Et
merci.
Il y a même des dalles qui cèdent déjà.
Merci Joe. Merci Joe. On a compris votre préoccupation. Merci. On reste à Kinshasa pour accorder la parole à Madame Pacifique. Bonjour Madame Pacifique.
Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Ferma.
On vous écoute.
D'accord. Je voulais demander à l'invité.
Oui.
D'ici, nous sommes à Petro-Congo, à Tchango, je peux dire.
Oui.
Trop d'accidents. On sait que le tas de la route principale qui tronçon boulevard Lumumba vers Petro-Congo, le caniveau sont bouchés. Bon, ça c'est pas aussi la faute au gouvernement, hein, ce sont le conducteur et tout. Alors à l'entrée abattoir, il y a aussi les nids des poules, donc c'est chaque matin, vous devez faire au moins 10 heures du temps dans le véhicule pour sortir. Donc les gens préfèrent faire le pied jusqu'au boulevard pour pouvoir sortir. Et ça fait aussi presque une année, hein, cet état-là n'est pas arrangé. Et c'est pas ce que le gouvernement, et lui personnellement, il est directeur, hein, c'est pas, ils ont déjà mis quelque chose en place, un plan pour, parce que c'est une Chine populaire, il y a beaucoup de gens, beaucoup de monde, et c'est difficile à traverser comme ça. Et la deuxième question, est de savoir à quand ils vont inaugurer le passerelle. Parce que là, nous voyons, ils ont juste le passerelle juste à limiter. Hein, à Tiens, où il y a beaucoup de gens, beaucoup de monde. Nous attendons que les travaux puissent passer aussi de ce côté. À quand ils vont inaugurer?
Ce n'est pas le sujet du jour, mais bon, puisque notre invité, Charles Médaille Lunga, de toujours l'agence de communication, trouve est avec nous dans ces studios, on verra comment répondre à ça. Merci, Madame Pacifique, d'avoir participé à cette émission, surtout de faire votre témoignage par rapport à ce qui se passe sur la route, Petro-Congo, donc du côté de la commune de Massina. Merci à vous et bonne journée. Voilà, Charles Médaille Lunga, vous avez suivi Augustin qui nous appelait de Kindu. Et on revient vraiment sur le problème de caniveau. Et là, il faudra qu'on sache bien, parce que c'est vrai, vous êtes de l'agence congolaise des grands travaux, mais les gens parlent également de courage, de l'assainissement par rapport à ces caniveaux. Parce que c'est vrai, vous avez dit qu'il faut dimensionner les caniveaux après des études hydrauliques et hydrographiques. Mais il y a quand même un autre problème, c'est celui des ordures. Lorsqu'on le déverse dans les caniveaux, ça pose également problème. Alors, qu'est-ce que vous dites d'abord à ces problèmes de caniveaux?
Oui, d'abord, il faut qu'on relève une chose qui est très importante. Oui. C'est que l'imperméabilisation, les ruissellements des eaux posent un sérieux problème écologique. Vous savez, le compatriote qui parle de Kindu, Augustin, doit savoir que à Kindu, même l'eau potable qui vient, n'est-ce pas, du fleuve, c'est de l'eau qui est traitée. Mais alors, lorsque on charrie à travers les déversements des déchets, on envoie n'importe quoi dans les caniveaux, la conséquence est que les déversements vers le fleuve chargent l'eau qui doit être traitée. Et ça a un impact sur le traitement de l'eau, ça affecte sérieusement. Donc l'eau a un effet écologique et il faut absolument qu'il y ait une gestion sérieuse de cette question des eaux de pluie. Alors maintenant, lorsqu'il relève, certes, un décor assez difficile, 2500 ménages qui ont dû être évacués, il s'agit naturellement soit des constructions, j'ai vu un peu quelques images, il s'agit des constructions d'abord vulnérables. C'est des constructions en zone inondable. Et là aussi, problème d'occupation. Donc, ce sont des problèmes qu'on aurait dû prévenir en amont. Alors, et je crois que ce que nous avons dit ici, le respect de la réglementation, un plan d'aménagement, un plan minimum d'aménagement, c'est indispensable sur chaque site. Et donc, ce sont des constructions vulnérables, des constructions qui ne peuvent pas résister lorsqu'il y a même la moindre pluie. C'est ça.
Et pour du courage de ces caniveaux-là, vous avez suivi, par exemple, on a parlé du boulevard au niveau de la commune de Kimbanseke.
Justement, je crois que je vais fortement y revenir. Mais Augustin a demandé comment construire. Cette fois-là, il pose une question en sol mou. Quel type de maison il faut construire? Là, j'ai dit à Augustin, attention, en sol mou, on peut construire. On peut construire une maison. Un bâtiment,
ce sol mou, même sol marécageux, c'est
un
ça?
Sol marécageux, on peut construire n'importe où, mais attention, à des prix beaucoup plus élevés. L'infrastructure coûte cher lorsque on cherche à construire sur un sol mou. Pourquoi? Parce que nous cherchons à fonder sur un sol résistant. Alors, si c'est sur un sol mou, il faut chercher à aller avec la fondation sur le sol qui est résistant. Autrement, on peut aussi accepter de faire flotter un bâtiment. Donc, il y a des bâtiments qui flottent. Donc là, on n'a pas besoin, n'est-ce pas? Donc, la technologie est indiquée, la technologie donne des solutions pour construire n'importe où. Mais attention, à des coûts très élevés et moyennant des aménagements assez importants.
Il ne faut pas s'hasarder à construire sur un sol marécageux quand on n'a pas assez de moyens.
Quand on n'a pas assez de moyens, sait que ça vous expose à tous les dangers possibles.
Exactement.
Voilà. Alors, s'agissant de Kinshasa, et là, j'aimerais bien dire à Joe qui a posé la question sur les caniveaux bouchés. Et les caniveaux sont bouchés, et il doit le savoir. Certes, il y a une périodicité pour faire les travaux de curage. Mais sur le boulevard Lumumba, nous avions dénoncé le fait d'avoir obstrué de manière prématurée les caniveaux. Pendant déjà qu'on était en train de construire les travaux, de construire, je veux dire, la route, le boulevard Lumumba, eh bien, déjà, au fur et à mesure que les travaux avançaient, on était en train de sensibiliser les populations contre l'évacuation des déchets. Vous savez qu'il y a des gens qui viennent et qui déversent des sacs entiers dans les caniveaux. Ça, nous avons vécu, nous avons filmé, nous avons montré à la population. Donc je crois que la population doit s'approprier tous les ouvrages qui sont construits. Sur le boulevard Lumumba, ça, j'aimerais bien dire à Joe, les dimensions des caniveaux sont plus que suffisantes pour pouvoir faire drainer tout ce qu'il y a comme écoulement des eaux. Mais il faut relever sur le boulevard Lumumba, et ça, une difficulté, il y a des endroits, des zones qui ont été des habitations qui sont pratiquement dans des zones inondables, en dessous du niveau de la chaussée.
Oui.
Vous savez, lorsque vous avancez, après le pont Matete, regardez à gauche, vous verrez que c'est un site très vulnérable. Les gens ont construit dans des zones, ils savent bien que tous les déversements des eaux ne savent pas trouver d'issue. Donc, il faut qu'on se le dise. Et alors, cela appelle, dans le futur, que toutes ces personnes puissent évacuer. C'est des gens qui ont construit, naturellement, dans les lits de la rivière du Lit, dans les lits des plus hautes rivières, le long du boulevard. Mais toutes les précautions avaient été prises. Donc, le fait d'avoir trouvé des caniveaux bouchés, ça, c'est encore une fois l'incivisme de certains compatriotes. Donc ça, c'est des choses que nous avons.
Donc il faut davantage sensibiliser à la population par rapport à ces comportements.
Oui, oui.
Voilà. Mais vous avez suivi, hein, Madame Pacifique a appelé de Massina, bon, qui a parlé de la route de Petro-Congolais également, le même problème où on jette des déchets dans les caniveaux. Mais elle en a profité pour une question sur les passerelles.
Oui, oui. Je crois que Madame Pacifique doit se rassurer que les passerelles, on a construit 3 premières passerelles avant l'échangeur de Limété, mais il y en a 4 autres, n'est-ce pas, qui sont en train d'être construites à partir des bonhommes. Il y en a 4 et le travail a déjà commencé. C'est un problème de temps. En principe, nous souhaitons.
Mais là, cherchons à savoir celles qui sont finies. Pour qu'est-ce qu'on attend pour inaugurer de manière à ce qu'on puisse construire du côté de Tchamou?
Non, celles qui sont finies, vous savez, il y a des problèmes clairs, des problèmes de sécurité qu'il faut régler. Il faut certes offrir des ouvrages confortable à la population, c'est très bien, il y a beaucoup d'accidents, il faut éviter,
oui.
Mais il faudrait pas aussi qu'on puisse laisser le trafic, le passage de piétons à l'insécurité. Donc ça, c'est une question qui est en train d'être réglée avec l'hôtel de ville, de manière à sécuriser le passage des riverains. Il y a beaucoup d'aménagements, on va continuer le projet pendant longtemps, de manière à rendre ces ouvrages le plus attrayants possible. Vous verrez que ça sera des ouvrages merveilleux que tout le monde va aimer passer par ces passerelles.
D'accord. On prend deux derniers auditeurs. Christian qui nous appelle de Colosi Malunga qui est à Bandundouville. Christian, bonjour. Christian, bonjour.
Allô, bonjour.
Allez-y rapidement, on n'a plus assez de temps. Christian, quelle est votre question? Il y a des problèmes avec la ligne de Christian, alors on va se rendre à Bandundouville pour retrouver Malunga. Malunga, bonjour. On vous écoute, Malunga. Non, la ligne... oui, allez-y.
Oui, en abondance, c'est le même ordre.
Oui.
Il y a avec notre invité là-bas. Il faut qu'on marque vraiment le civisme.
Oui.
Vous voyez que Kinshasa, c'est une ville à plusieurs lignes de partage des eaux.
Oui.
Mais les eaux qui ruissellent ne trouvent pas vraiment les canaux qui sont vraiment bien opérationnels. C'est ainsi que, est-ce que l'État ne peut pas vraiment faire éveiller la population, à les sensibiliser pour introduire le civisme et surtout comme nous avons dans la période de la nouvelle citoyenneté, c'est ça la nouvelle citoyenneté, d'imposer et de poser vraiment la loi sur le débouchement d'une parcelle. Avant la parcelle, il faut que les responsables de ces parcelles débouchent le terrasse, le canal. Parce que si tous les canaux de Kinshasa sont vraiment opérationnels,
oui,
il n'y aura plus d'inondation. Mais comme les canaux sont bouchés, raison pour laquelle si les eaux ruissellent, la ligne est dépassée, toutes les maisons sont inondées. Vous voyez que moi, je reste là, dans la commune de Kinshasa, c'est Louvre. Un jour, je me suis trouvé dans la nuit, les bâtiments flottaient dans l'eau, il n'y avait plus le moyen de sortir de la maison. Pourquoi? Puisque les canaux sont déjà bouchés, il n'y a plus... plus le passage.
Ouais, Mamalonga, il faut interpeller davantage la population par rapport à ces mauvais comportements de jeter les ordures dans les caniveaux, on a compris. Malonga, merci d'avoir appelé de Bandundouville. Et voilà, donc on retient, Charles Médard Ilunga, on retient qu'il faut absolument, ça c'est une planification globale, pour ce qui est vraiment de cette question de route avec tout ce qu'il a comme inondation lorsqu'il a des pluies diluviennes. Et vous avez également parlé de l'avenue Bypass, vous avez dit dans une ou deux semaines, les travaux vont commencer. Qu'est-ce qui va être exactement fait par rapport à cette avenue?
Et par rapport à cette avenue, c'est une réhabilitation du fond en comble.
Oui.
Et puis, c'est un élargissement aussi. Donc, on va passer aujourd'hui d'une fois deux voies à deux fois deux voies. Et on va construire un pont, le pont au niveau du pont Mongoulou-Diaka, comme on l'appelle d'habitude. On va construire ce pont, on va rehausser le profil de la route. Je vous ai parlé aussi du pont Kalamu. Ça aussi, on va rehausser le profil de la route. On va essayer donc de dégager les emprises qui sont aujourd'hui sérieusement attaquées par l'occupation anarchique. On va les dégager et ça va aider sincèrement à reconstituer, à donner plus de confort, à donner plus de sécurité, n'est-ce pas, aux différents passagers, parce que ça devenu aujourd'hui un véritable calvaire.
Oui, mais là, il y a une question qui pourra se poser également, est-ce que les dispositions sont prises par rapport aux routes secondaires? Bien souvent, lorsqu'il y a des travaux, des grands travaux comme ceux-là, il y a souvent également des problèmes d'embouteillage, il n'y a pas de routes secondaires qui sont prévues, parce qu'on sait que c'est une avenue qui est vraiment fréquentée par des gros véhicules qui vont vers Matadi. Et il y a des dispositions prises par rapport à cela.
Oui, vous savez, c'est toujours aussi le prix à payer. Il faut absolument tenir compte du fait que nous n'avons pas toujours beaucoup d'alternatives, des passages alternatifs lorsque nous faisons des chaussées. Parce que les routes secondaires elles-mêmes sont déjà très souvent en état beaucoup plus délabré. Mais au niveau de Mongafula, nous allons procéder par tronçon, de manière d'abord à aller vite. C'est un projet très très grand. Mais nous allons chercher à aller vite. Nous allons travailler directement avec deux grandes entreprises, de manière à raccourcir le temps d'intervention, de manière à ce que les travaux se terminent le plus rapidement.
Voilà. Merci Charles Médard Ilunga. Nous rappelons que vous êtes directeur général de l'agence congolaise de grands travaux. Avec vous, on a parlé de tous ces dégâts causés par des pluies sur ce qui est de l'état de route et des solutions envisagées. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On vous retrouve prochainement.
Merci.